France Culture.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mosna-Savoie.
Cette année marque le centenaire de la naissance et les 30 ans de la mort de Gilles Deleuze. Pour l'occasion, toute cette semaine, nous ouvrons dans son œuvre un livre sans début ni fin, un livre rhizome écrit à plusieurs avec le psychanalyste Félix Guattari, « Mille plateaux ». Et aujourd'hui, entrons dans le plateau des devenirs, devenir intense, devenir animal, devenir imperceptible, ou comment en finir avec cette question particulièrement stupide « qu'est-ce que tu deviens ?» et plutôt s'ouvrir à des devenirs beaucoup plus subtils comme « devenir rat » par exemple.
Voici Willard, et voici ses amis, Ben et Socrate.
Il y aura une petite surprise pour vous demain.
Willard les aime et les soigne bien.
Qu'est-ce que tu as dans la poche? Tu as quelque chose dans la poche.
Et il ferait n'importe quoi pour Willard.
Rongez la porte.
Va, Walter, je t'en prie. Va voir, il y a quelqu'un derrière la porte.
Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que tous ces rats?
C'est ma vie tout entière qui a changé. Grâce à deux êtres. Un ami que j'aimais bien, qui s'appelait Socrate.
Et vous? Aux limites du cauchemar, Willard commence.
Tu vas voir. Oh, allez, bouffez-le!
Non! Arrêtez! Non! Arrêtez!
Bonjour Élie Düring.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'université Paris-Nanterre. Vous enseignez également à l'école des Beaux-Arts de Paris. Vous avez travaillé sur Bergson, Bachelard, Deleuze. Sur Deleuze, on vous doit, je le cite tout de suite, trois lettres inédites d'Henri Bergson à Gilles Deleuze, paru dans la revue Critique, et écrit en collaboration avec votre père ethnomusicologue de l'espace lisse autant troué à propos des musiques nomades. Mais si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour parler de devenir. Première question, est-ce que vous avez vu ce film, Willard, de 1971, un film américain d'horreur réalisé par Daniel Mann et qui ouvre le plateau de Deleuze et Guattari sur les devenirs?
Oui, je l'ai vu, c'est un film assez étrange, vraiment un film de série B. Quoi. Donc, c'est
mauvais film.
Pas mauvais, au-delà du bon et du bon et du mauvais. Je
pense par de la bien et mal.
C'est le propre des films de série B quand on aime ça. Et qui, en effet, dramatise de façon très évidente un ensemble de questions qui sont posées, qui sont traitées dans ce chapitre 10 de Mille plateaux, ce plateau sur les devenirs animaux, entre autres choses. Devenir imperceptible et beaucoup
et
de choses.
Voilà, et devenir femme, devenir enfant, on va décortiquer, même si ce n'est pas très deleuzien et guattarien, de décortiquer ces différents devenirs. Mais quand même, arrêtons-nous sur cet exemple de Willard, parce que c'est quand même un exemple de pop philo. On a beaucoup associé la pop philo à Deleuze, ça vient de lui, on l'a beaucoup aussi un peu galvaudé. Ouvrir quand même un texte, et ça montre quand même le côté foisonnant, étonnant, inédit de Mille plateaux avec un tel film, pour poser la question centrale du devenir, c'est quand même un geste assez fou.
Oui, et puis qui témoigne de la jubilation dans l'écriture chez Deleuze et Guattari, notamment de ce chapitre. Enfin, dans la lettre à Uno, Deleuze dit dans Mille plateaux, ce qui nous a vraiment procuré beaucoup de plaisir dans l'écriture conjointe à quatre mains, ça a été le plateau sur la machine de guerre, il en a été question hier, mais aussi et beaucoup le chapitre sur devenir animal, devenir imperceptible. Et donc cette ouverture sur un film de ce genre, ça traduit aussi une sorte de jubilation à mobiliser les références les plus disparates et dans les registres les plus hétérogènes. Donc il y a aussi par ailleurs de la grande littérature moderniste, il y a des références philosophiques lourdes.
Il y a du Proust, il y a du Spinoza.
Absolument, il y a du Virginia Woolf et plein d'autres choses encore. Mais il y a Willard, le film sur les meutes de rats qui viennent contaminer de façon virale un individu qui bascule de l'autre côté. Quoi. C'est très étrange.
Voilà, donc il se prend en fait, d'affection, ce héros pour des rats, donc Socrate et Ben, on entend.
Oui, alors une meute de rats qui avec lesquels il cohabite dans un premier temps, puis à un moment donné, il y a quelque chose qui relève davantage même que d'une fascination ou que d'une obsession. Il y a quelque chose qui engage ce personnage, ce protagoniste, dans un devenir, ce qu'on pourrait appeler un devenir rat. et dans un rapport privilégié à certaines figures dans la meute des rats. Il y a quelques figures qui se détachent et qui ont une sorte de valeur exemplaire, hein, des originaux, des personnages remarquables qui fixent un peu l'attention et qui accélèrent et intensifient ce processus. Bon, je passe sur la dimension proprement dramatique. Bon, il y a des péripéties diverses et puis tout ça est horrible et fantastique, mais il y a un climat qui va au-delà, disons, d'un rapport purement, justement, allégorique ou métaphorique au rat. Il y a quelque chose qui engage le personnage, là, dans ce film, dans un devenir inhumain. Et c'est ça l'enjeu. Et par ailleurs, il y a, de façon très spectaculaire, la mise en scène de la multiplicité animale comme telle, la meute, la population des rats, et qui est pour beaucoup, je dirais, dans le concept de devenir animal, enfin ce qui est nouveau dans le concept deleuzo-guattarien du devenir animal, c'est cette insistance sur un rapport au multiple comme tel, qui est vraiment très clair quand on parle de rats, parce qu'en général c'est pas le rat familier, c'est pas le rat domestique, ça peut commencer comme ça, mais là à un moment donné on se branche sur un devenir rat qui est connexion étrange, on entre dans un rapport de voisinage un peu aberrant, un peu contre nature, avec des populations de rats, et là on touche à quelque chose de véritablement inhumain. On n'est plus dans l'animal familier, l'animal totem ou l'animal domestique, on est vraiment ailleurs.
Là, on est vraiment au cœur, en fait, du devenir. Le devenir animal, Deleuze et Guattari commencent par le devenir animal pour faire comprendre aux lecteurs et aux lectrices que devenir animal, ce n'est pas faire l'animal, ce n'est pas imiter un animal, ce n'est pas non plus aimer un animal. Je cite, par exemple, cette phrase, page 292 dans les éditions De Minuit, De Mille Plateaux, où ils disent « Tous ceux qui aiment les chats, les chiens sont des cons ». Et d'ailleurs, dans l'abécédaire, il dit qu'il habite dans un appartement qui donne sur une rue où les gens un peu assez calmes et les gens viennent promener leurs chiens, et il dit « mais je les vois parler à leurs animaux, c'est aberrant », c'est-à-dire qu'il les traite comme des humains. Alors voilà, devenir pour Deleuze et Guattari, ce n'est pas devenir quelque chose, quelqu'un d'autre que soi, ce n'est pas imiter, ce n'est pas se prendre pour, ce n'est pas faire comme si, ce n'est pas imiter. Ça, c'est très important de le dire.
Oui, c'est probablement une des thèses centrales de ces passages sur le devenir animal, c'est que devenir animal, c'est pas faire la bête au sens d'imiter, d'entrer dans un rapport mimétique au sens habituel, d'identification ou de projection, ce qui reviendrait au même, ou de régression vers une forme involuée de l'humanité qu'on retrouverait dans l'animal. C'est pas non plus un rapport à la bestialité en soi. Bon, c'est vraiment entrer dans un devenir qui est une altération au sens fort. C'est-à-dire on entre en connexion avec quelque chose qui est au-delà de l'humain et où les rapports d'identification ne fonctionnent plus. Donc il ne s'agit pas en effet d'entrer dans un rapport de familiarité identificatoire avec des figures animales, ce qu'il évoque, et c'est assez comique en effet, les scénettes qu'il perçoit ou qu'il entend depuis son appartement, de gens qui parlent à leurs animaux comme à des petits humains ou à des sortes de maquettes ou modèles réduits d'humanité.
Voire d'eux-mêmes.
Oui, voilà, absolument. C'est grotesque et ça passe à côté en effet de la communication et de l'espèce de développement de puissance inconnue qui peut avoir lieu au contact de vie animale et même déjà au contact d'animaux domestiques, chiens et chats. Les aimer, comme il dit, c'est pas le problème. C'est-à-dire, en effet, il faut faire autre chose que les aimer au sens où on y retrouverait quelque chose d'aimable ou de familier. Il faut composer un nouveau rapport avec ce que l'animal recèle de puissance autre. L'animal a un monde. Ça, c'est une thèse qui revient souvent, qui est illustrée de mille façons par Deleuze et Guattari, notamment à partir de textes d'éthologie. On pense au fameux passage sur la tique qui reprennent à Von Uxküll, le monde de la tique.
C'est structuré. Qui Von Uxküll ?
Von Uxküll, c'est un éthologue, donc zoologue-éthologue allemand des années 20-30, dont la référence circule chez les philosophes de Heidegger à Deleuze et qui a fortement montré, par des analyses de cas et des descriptions très précises, quasiment cartographiques, que l'animal structure, configure esthétiquement un monde à partir de composition d'affects et d'intensité sensible. dans le cas de la tique, par exemple, il y a trois affects ou intensités fondamentales qui composent son monde très rétréci au regard d'une autre. Il a moins de dimensions probablement qu'un monde humain, mais enfin il a cet avantage de présenter immédiatement quelque chose comme un autre monde. Mmh. Et donc cette communication avec l'animal, elle est une manière, au fond, d'accéder à des perspectives, à des mondes autres, au-delà ou en deçà de l'humain.
Mais en même temps, c'est quand même un peu bizarre, Elie Düring, d'ouvrir un chapitre, non pas avec un exemple de Pop Philo, mais un chapitre, un plateau sur le devenir, qui est une notion qu'on peut avoir en tête, sur le fait qu'on change, qu'on se transforme par le devenir animal, alors que vraiment, l'animal, c'est là où on peut avoir le plus d'incompréhension, plus de malentendus, en fait. Justement, faire la bête, prendre son chat pour son petit frère, ou que sais-je. Vous voyez, en fait, c'est pas... Derrière l'exemple pédagogique, il y a aussi une foule d'incompréhensions, et puis il cite lui-même, par exemple, la psychanalyse de Jung, en disant, voilà, on prend les animaux, pour des symboles, ou alors, dans le structuralisme, on en fait juste une question de rapport entre différentes fonctions.
C'est très juste, et c'est pour ça que d'emblée, il s'emploie à dissiper ces malentendus. Mmh. Et pour aller très rapidement au cœur de l'affaire, qui est de faire sentir au fond que dans le rapport à l'animalité, et c'est une conséquence de ce qu'on évoquait à l'instant, évidemment il ne s'agit pas d'imiter l'animal, mais d'entrer dans des rapports de composition, d'affect et d'intensité sensible, d'intensité perceptive qui nous emmène ailleurs, mais réciproquement aussi, et ça c'est une façon de comprendre la chose et de dissiper les malentendus, d'éviter les pièges, il faut comprendre que l'animal lui-même dans ce rapport, si ce rapport est effectif, est emporté, arraché à son animalité d'une autre façon. Il parle souvent du devenir animal comme un double devenir, enfin un devenir duel, une double déterritorialisation qui emporte évidemment l'homme au-delà de lui-même, vers un inhumain, mais réciproquement, qui arrache l'animal à son animalité, alors à sa détermination, disons, éthologique ou zoologique, mais aussi bien, évidemment, à toutes ces déterminations imaginaires ou symboliques que l'homme projette sur l'animal. Il est emporté ailleurs, il devient autre chose lui-même dans ce rapport. Et là, c'est très intéressant. Bon, on pourrait évoquer Willard, mais aussi d'autres exemples. Dans la pop culture, et aujourd'hui, ça circule pas mal chez les enfants, mais aussi chez les adultes, une BD comme celle de Bill Watterson, Calvin and Hobbes, qui met en scène un jeune garçon et son animal peluche, un tigre, Hobbes, c'est son nom. On voit très bien de quelle façon, et aussi par la manière dont le dessinateur fait varier la figure du tigre qui tantôt apparaît comme peluche, tantôt comme un tigre vivant, on voit bien que le tigre lui-même entre dans un rapport de composition avec le jeune humain, avec l'enfant, et qu'il arrache à son être animal. C'est-à-dire, tantôt, il parle comme un adulte, comme un mix entre un slacker californien qui a envie de manger du chocolat toute la journée et un maître zen qui délivre des apophthegmes et des sentences. Mais déjà, sous ce régime-là, il est ni animal ni humain, quoi. C'est un vivant qui a développé une puissance, une présence, une puissance d'énonciation qui est entre l'animal et l'homme et peut-être ailleurs encore. Bon, je referme cette parenthèse, mais...
Non, c'était bien, c'est un exemple concret.
Oui, et il y en a plein d'autres en réalité, tirés notamment de la littérature, où on voit que l'enjeu c'est aussi que l'animal devienne autre chose. Et c'est la meilleure façon de répondre au danger que vous indiquiez, à savoir une re-territorialisation de l'animal dans un imaginaire animalier qui serait proprement humain, qui a été beaucoup investi aussi par la littérature, par les mythes. Or, peut-être dans le genre de la science-fiction ou du fantastique dont relève Willard, le film, peut-être aussi dans la forme du conte, davantage que dans celle du mythe et des légendes, il y a quelque chose qui justement arrache l'animal à
ce régime symbolique. Mais il y a le loup, par exemple. La figure du loup dans les contes, c'est assez fort de ce point de vue-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on lui fait ? C'est-à-dire qu'on le fait jouer, le loup, mais en fait, il y a quelque chose aussi de qu'est-ce qu'on investit de l'ordre de l'animal, dans la figure du loup.
Voilà, avec cette difficulté, c'est que les contes ont été eux aussi, par exemple, psychanalysés ou interprétés...
Relus, réécrits, plus fictionnalisés avec des dessins animés, par exemple. Donc là, il y a une figure qui va se figer.
Et donc ça se fige, mais bon, si on revient aux sources, si on s'intéresse... par exemple, à des formes un petit peu tératologiques dans l'histoire de la littérature. Je pense à toute la littérature de Kafka, tous les textes de Kafka où la forme animale est investie, mise en scène de façon parfois très étrange et vraiment aux limites de l'identifiable. Pensez à Recherche d'un chien, par exemple, où Deleuze et Guattari l'évoquent dans leur livre Kafka pour une littérature mineure. Il y a une scène très, très singulière où un groupe de chiens musiciens sont décrits comme produisant une musique aux lisières de l'audible, hein, des sons quasiment inaudibles entre le piaulement et la respiration rythmée, et qui sont, dit Kafka, complètement déconnectés du besoin de la pulsion animale qui le porterait par exemple vers la nourriture, vers des fonctions animales bien répertoriées et bien identifiables. L'animal musicien, c'est déjà autre chose qu'un chien. Et ça, c'est des moments qui sont particulièrement intéressants parce que ils font voir de quelle façon, en effet, on a toujours affaire dans le devenir animal, hein, un processus de double déterritorialisation réciproque, mais asymétrique, parce qu'on ne devient pas animal, l'homme ne devient pas animal au sens où l'animal pourrait devenir humain ou autre chose. C'est des devenirs qui sont eux-mêmes hétérogènes, mais qui ne fonctionnent que par couplage. Il parle de bloc de devenir pour désigner cet agencement-là qui se produit entre deux formes qui sont chacune en devenir, en rapport à l'autre.
Et on voit bien que le devenir dépasse largement le cadre du seul devenir animal, puisqu'il s'agit de mettre en rapport des éléments hétérogènes de toutes parts. Donc on va les aborder, mais il faut revenir quand même aux sources du devenir. Pourquoi Deleuze et Guattari lui accordent une telle importance dans Mille plateaux? Eh bien, c'est parce que Deleuze a suivi des cours sur Bergson, lui a consacré un livre et a également aussi écrit dans Mille plateaux un texte qui s'appelle Souvenir d'un Bergson. On va tout de suite écouter justement un texte de Bergson sur le changement.
Nulle part, la substantialité du changement n'est aussi visible, aussi palpable que dans le domaine de la vie intérieure. Les difficultés et les contradictions de tout genre auxquelles ont abouti les théories de la personnalité viennent de ce qu'on sait représenter d'une part une série d'états psychologiques distincts, chacun invariable, qui produirait les variations du moi par leur succession même, et d'autre part un moi non moins invariable qui leur servirait de support. Comment cette unité et cette multiplicité pourraient-elles se rejoindre? Comment, ne durant ni l'une ni l'autre, la première parce que le changement est quelque chose qui s'y surajoute, la seconde parce qu'elle est faite d'éléments qui ne changent pas, pourrait-elle constituer un moi qui dure? Mais la vérité est qu'il n'y a ni un substratum rigide, immuable, ni des états distincts qui y passent comme des acteurs sur une scène. Il y a simplement la mélodie continue de notre vie intérieure, mélodie qui se poursuit et se poursuivra, indivisible, du commencement à la fin de notre existence consciente. Notre personnalité est cela même. C'est justement cette continuité indivisible de changement qui constitue la durée vraie.
Extrait de La pensée et le mouvant de 1934 d'Henri Bergson, lu par Nicolas Berger. On entend bien dans ce texte, Elie Düring, la manière dont Bergson va révolutionner la manière dont nous voyons le changement, à savoir non pas un enchaînement d'états successifs, non plus des variations sur un support fixe qui serait le moi, mais comme une durée indivisible. En quoi cette découverte pour Deleuze a été déterminante et lui a permis, entre le moment où il a découvert, donc j'imagine dans les années 50, le moment où il faisait ses études et il passait son agrégation, et 25 ans, 30 ans plus tard, jusqu'à proposer ce plateau sur les devenirs.
C'est même un peu plus tôt, je pense, c'est les années 40. Mais
il faut que j'aille faire la biographie de effectivement de Deleuze. Ah oui, il a eu la grecque avant dans les années 40.
Ouais, il a eu la grecque à la fin des années 40. Comme lycéen, comme tout le monde. Ouais. Mais en effet, c'est une des matrices très importantes pour Deleuze en général. Et dans ce chapitre de Deleuze et Guattari, il est explicitement convoqué Bergson sous la forme d'une section intitulée Souvenir d'un Bergsonien. Il y a aussi Souvenir d'un Spinoziste, ce qui signale que l'autre matrice très importante pour penser justement les rapports de composition de puissance et d'intensité, c'est Spinoza. Mais pour rester sur et revenir à Bergson, Alors, en effet, la grande intuition de Bergson concernant le changement, ce qu'il appelle le changement réel, qui est essentiellement lié au concept de durée qu'il introduit pour repenser la nature du temps, par rapport au changement, la thèse centrale de Bergson, elle est double. D'une part, c'est de dire le réel, c'est le changement. Le changement n'est pas simplement une transition d'un état à un autre, d'une forme à une autre. C'est pas une transformation au sens d'un passage d'une forme ou d'une identité ou d'une figure à une autre. C'est réellement le réel.
C'est-à-dire que le réel, il n'y a pas que des courtes transitions entre des états, c'est vraiment tout le temps du changement, c'est ça?
En fait, ce dont il faut rendre compte, et ce dont l'existence ou la réalité est problématique, ce sont les états découpés, ce sont les sujets identifiés, rapportés à une essence plus ou moins invariable. En revanche, il y a une évidence du changement, comme étant la nature ou l'étoffe même du réel, et qui veut faire valoir en disant, dans l'extrait qu'on a entendu, c'est la première chose qu'il dit, il y a une substantialité du changement, ce qui est presque un oxymore. En quoi le changement, le passage, oui. Le devenir peut avoir un caractère substantiel. Il retourne complètement les catégories ontologiques traditionnelles et il dit la vraie substance, c'est le changement. Donc on pourrait aller plus loin et dire les êtres se définissent par leur manière de changer, de durer, c'est-à-dire de devenir. Et ça, c'est une thèse que Deleuze reprend quasiment dans ses termes en disant, en ne cessant de dire qu'au fond, ce qui va définir, par exemple, l'enfant, la femme, l'animal même, c'est pas tellement une identité supposée qui nous ferait dire que il faut devenir, donc se rapprocher, devenir enfant, devenir femme, devenir animal, au sens de se rapprocher de quelque chose qui serait un pôle d'identification. C'est presque exactement le contraire. Tous ces termes se définissent par leur manière propre de durer. Un animal a sa manière propre de se transformer, d'entrer lui-même dans des devenirs multiples. Bon, ça c'est la première thèse. Ensuite, si on essaye de la préciser, et c'était le sens du texte qu'on vient d'entendre, en effet, devenir, puisque le devenir est réel, il se définit pas par le passage d'un état à un autre ou d'une forme à une autre, et il n'y a pas à supposer, par conséquent non plus, un sujet du devenir. Une substance au sens d'un suppôt, d'un support du devenir qui serait la chose qui change. Donc devenir, c'est pas devenir quelque chose.
D'où la bêtise de cette question, qu'est-ce que tu deviens, pour Deleuze.
Donc, ça n'est pas le passage d'un état à un autre ou d'une forme à une autre. Donc ça n'est pas devenir quelque chose, mais ça n'est pas non plus quelque chose qui devient. On ne définit pas le devenir par le sujet supposé du devenir. Le devenir, en quelque sorte, se tient lui-même. Il a cette substantialité qui est que, au fond, il faut le penser directement lui-même. Et le seul accès qu'on puisse avoir à un devenir dans sa réalité, c'est de le prendre au milieu. Se faisant, dit Bergson.
De toute façon,
les choses en train de se faire.
Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin.
On serait bien en peine de dire quand commence un devenir et quand il finit.
Sauf si avec Bergson, on se place du point de vue d'un individu. Il y a quand même une idée un peu à noter, Elie Düring, c'est que Bergson parle de changement. Deleuze et Guattari parlent de devenir. Le devenir, c'est aussi un verbe qui peut être auquel il donne une forme intransitive. Donc, en fait, on a l'impression que le devenir, c'est tout le temps en train de se faire, alors que le changement, ça semble être encore un gros concept de la philo traditionnelle.
Alors justement, il le modélise de plein de façons. Bergson, il dit que c'est le changement réel. Ce n'est pas le changement qu'on a justement catégorisé en philosophie à partir d'une grammaire du sujet et de ses propriétés. Il y a plein de façons d'échapper à ce travers. Mais c'est vrai que ce qu'introduit en propre Deleuze et que Deleuze et Guattari ici mettent en œuvre, c'est le thème d'une multiplicité extérieure, en quelque sorte. Qui empêche, dont le propre est d'empêcher le changement ou le devenir de se refermer sur, alors évidemment sur une identité, mais même, et ça c'est en effet ce que vous suggériez, chez Bergson, il y a une valorisation d'un certain type de devenir qui constitue, qui consolide une individualité. Un pôle d'individualité qui prend souvent la forme d'un rapport à soi qui mobilise la mémoire, donc des formes d'intériorité, d'intériorisation de l'expérience.
Oui, il y a les états de conscience.
Et puis le thème dominant chez Bergson de la personnalité, c'est-à-dire qu'il faut s'efforcer de devenir une personne. Alors que ce que Deleuze et Guattari vont opposer à cette orientation-là de la philosophie bergsonienne, c'est le thème de l'impersonnel. Il faut s'arracher au moi, non seulement au sujet métaphysique, mais au moi psychologique et à cette idée d'une individualité comme personne pour l'ouvrir à la multiplicité de flux extérieurs, de flux de devenir extérieurs qui nous arrachent à toute identité et, disons, nous permettent de construire quelque chose, de composer quelque chose de nouveau dans un rapport à l'extériorité impersonnelle.
Mais ce qui est assez différent, en fait, pour un lecteur de Bergson, il y a quelque chose qui parle tout de suite, parce qu'on est quand même aussi dans un moment où, par exemple, le moi, c'est un concept, c'est une valeur même qui parle beaucoup. Donc, on va beaucoup se pencher sur soi-même, sur la mémoire, sur ce qui nous a constitué, sur nos origines. C'est le fameux roman familial dont parlait Freud et que critiquent beaucoup Deleuze et Guattari dans l'Anti-Oedipe. Le devenir, mais ça change tout pour un lecteur de Deleuze et Guattari. Ça engage énormément de choses. C'est-à-dire qu'on ne se considère même plus comme une personne, comme un sujet. On a juste l'impression que notre corps nous échappe comme une sorte de morcellement permanent.
Oui, alors et en même temps, et peut-être il faudra insister aussi là-dessus, c'est à l'horizon de cette expérimentation avec les devenirs multiples, dont le devenir animal donne une sorte de prototype, en quelque sorte. C'est ce qui permet d'introduire pédagogiquement la notion de devenir. Cette dimension-là, elle doit viser à l'horizon quelque chose comme une composition qui fasse tenir quelque chose au bout du compte. C'est-à-dire qu'il y a il y a l'idée que dans cette expérimentation avec les devenirs multiples, on doit dégager les conditions d'un plan de consistance qui organisera et qui fera tenir, qui donnera donc une forme de non pas de stabilité fixe, mais de consistance à un plan d'existence. Donc, la notion d'individualité, au sens de ce qui donne son unité et sa consistance à une existence, à une vie singulière, n'est pas abandonnée. Je dirais que le passage par la multiplicité et l'extériorité des devenirs est une condition pour s'arracher en effet à des figures un peu névrotiques et d'identification au moi, à des statues, à des figures
femmes,
de la
hommes,
subjectivité,
etc.
Voilà, qui sont elles-mêmes surcodées par des rapports de force sociaux et politiques. Bon. Donc l'expérimentation sur le devenir est une condition pour introduire de mille façons des lignes de fuite ou des mouvements de déterritorialisation qui nous arrachent à ces déterminations fixes. Mais au bout du compte, il y a, et c'est très présent à la fin du chapitre, la visée d'un plan de composition à un niveau plus abstrait peut-être que ces formes immédiates d'identification ou de subjectivation et qui s'apparente finalement à une forme de composition musicale. Il faudrait pouvoir composer sa vie à partir dans des rapports à des devenirs multiples comme la musique compose des puissances diverses, des puissances sensibles diverses, des puissances sonores évidemment, mais aussi de la lumière, mais aussi des rapports de vitesse et de lenteur en relation avec l'animal. Mmh. Il est question du devenir oiseau chez Mozart, par exemple. Il en sera peut-être question quand vous aborderez la Ritournelle dans
exactement.
Cette série. Mais ça, c'est la musique vient comme une sorte de modèle ou de paradigme pour penser un rapport de composition des lignes et des dimensions des devenirs qui restitue quelque chose comme un plan de consistance. Ben sinon, on serait dans l'émiettement et la dissolution, et ça présente aussi un danger. Il y a toute une réflexion critique et presque un peu inquiète sur la ligne de mort, la ligne d'abolition qui menace tout processus d'expérimentation sur les devenirs. Il y en a question notamment, par exemple, avec la question de la drogue, qui peut tourner en ligne de mort et d'autodestruction.
Alors, avant d'arriver à ce devenir moléculaire et à ces dangers, Elie Düring, écoutons un extrait de 1000 plateaux qui, effectivement, reprennent cette idée de multiplicité, allient devenir et multiplicité, et donc vont plus loin ici que Bergson.
Nous disons que tout animal est d'abord une bande, une meute, qu'il a ses modes de meute plutôt que des caractères, même s'il y a lieu de faire des distinctions à l'intérieur de ces modes. C'est là le point où l'homme a affaire avec l'animal. Nous ne devenons pas animal sans une fascination pour la meute, pour la multiplicité. fascination du dehors, ou bien la multiplicité qui nous fascine est-elle déjà en rapport avec une multiplicité qui nous habite au-dedans? Si l'écrivain est un sorcier, c'est parce qu'écrire est un devenir. Écrire est traverser d'étranges devenirs qui ne sont pas des devenirs écrivains, mais des devenirs rats, des devenirs insectes, des devenirs loups, etc. Il faudra dire pourquoi. Beaucoup de suicides d'écrivains s'expliquent par ces participations contre nature, ces noces contre nature. L'écrivain est un sorcier, parce qu'il vit l'animal comme la seule population devant laquelle il est responsable en droit. Le pré-romantique allemand Moritz se sent responsable non pas des veaux qui meurent, mais devant les veaux qui meurent, et qui lui donne l'incroyable sentiment d'une nature inconnue, l'affect. Car l'affect n'est pas un sentiment personnel, ce n'est pas non plus un caractère, c'est l'effectuation d'une puissance de meute qui soulève et fait vaciller le moi. Qui n'a connu la violence de ces séquences animales qui l'arrachent à l'humanité ne serait-ce qu'un instant et lui font gratter son pain comme un rongeur ou lui donnent les yeux jaunes d'un félin? Terrible involution qui nous appelle vers des devenirs inouïs.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mosna-Savoie.
Extrait de 1000 plateaux de Deleuze et Guattari, lu par Nicolas Berger, un extrait du 10e plateau intitulé « Devenir intense, devenir animal, devenir imperceptible », le tout lié avec des tirés, hein, c'est « devenir tiré animal », on va peut-être y revenir, Eli During. Mais d'abord, on voit bien là que dans ce texte, effectivement, Deleuze et Guattari dépassent Bergson, puisqu'on n'est plus dans le cadre de la vie intérieure, on n'est plus dans le cadre de l'individu seul, on est vraiment tourné vers l'extériorité et tourné aussi, ça c'est le concept crucial, la question de 1000 plateaux, vers la multiplicité. Oui. La question de 1000 plateaux, c'est comment se forment des multiplicités grâce au devenir.
Oui, alors donc il dépasse Bergson en un sens, une version, disons, de Bergson, mais en un autre sens, il l'accomplisse, puisque Bergson lui-même était aussi le penseur des multiplicités.
Un Deleuzien en devenir.
Oui, oui, et il a beaucoup insisté, on peut le dire au passage quand même, sur le fait qu'on ne peut pas définir une durée, donc ce qui est un autre terme, un terme bergsonien pour le devenir, autrement que en la déclinant immédiatement au pluriel. L'expérience de la durée, c'est toujours l'expérience de durée au pluriel, coexistence, coexistante, des différentiels de durée. Et le paradigme de ça, c'est le fameux exemple du morceau de sucre, c'est-à-dire qu'en réalité, on n'a pas affaire simplement à la mélodie de sa durée intérieure. C'est toujours en rapport avec ce qui se passe effectivement autour de soi, dans les devenirs du monde, et déjà dans le temps que prend un morceau de sucre à fondre dans un verre. C'est un différentiel de durée dont on fait l'épreuve quand on fait l'épreuve du changement réel ou du devenir. Bon, ceci étant dit, c'est vrai que ce que accentue considérablement Deleuze et Guattari, c'est cette ouverture explosive aux multiples comme tel. Ça prend la forme, si on parle du devenir animal, d'une sensibilité spéciale au fait que l'animal ne vient jamais seul, mais qui traîne toujours, de façon plus ou moins explicite, une meute avec lui, une bande. Bon, on pense au loup. Il y a toute cette controverse avec la lecture freudienne du cas de l'homme au loup. Bon, le fait qu'il y ait plusieurs loups, qu'il y en ait quelques-uns dans l'arbre, là, dans la vision de l'homme au loup, fait toute la différence. Un loup, ça peut être une figure paternelle, et on peut embrayer immédiatement de là-dessus, mais plusieurs loups, 5, 10, potentiellement 30 loups, une meute virtuelle, c'est déjà tout autre chose. Mmh. Et ça, c'est une dimension que Jung a davantage vue que Freud dans différents contextes. Ils insistent aussi, bien sûr, là-dessus. Le thème du chamanisme, de la sorcellerie, les références insistantes au livre de Castaneda, qui était très présent dans la culture un peu des années 70, la culture américaine, mais aussi européenne, issu de la Beat Generation et ensuite des mouvements hippies, insiste sur aussi sur ce rapport au monde qui passe par une sorte de molécularisation de la perception. Alors dans l'usage des drogues comme le peyote chez Castaneda, mais ça pourrait être aussi tout à fait sans adjuvant, par une sorte de d'attention fine à des dimensions de la perception qui touchent à quelque chose d'imperceptible. C'est fondamental aussi, et disons la notion de devenir moléculaire est essentiellement liée à cette valorisation de la multiplicité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ceux dont on fait l'expérience, ce ne sont plus des sujets, ce ne sont plus des formes ou des figures identifiables, ce sont des nuées, des essaims.
Mais par exemple.
Et par exemple, alors là
par exemple, on a... ce qui se passe ici dans ce studio, Élie Düring, c'est quoi le devenir qui nous traverse? Est-ce que c'est un devenir d'attention? En même temps, est-ce que c'est la couleur des lumières violettes? Est-ce que vous voyez, c'est quoi qui se mélange?
Je serais bien en peine de répondre. Je suis pas sûr, précisément, je suis pas sûr qu'actuellement le régime d'attention qu'on soutient dans notre conversation, qui a une certaine liberté, une certaine flexibilité et fluidité, mais qui est quand même très orienté, focalisé sur un sujet. On veut parler ici des devenirs chez Deleuze et Guattari. Je suis pas sûr qu'elle soit propice à l'émergence de devenir au sens créatif, au sens expérimental qu'ils ont en vue, parce que les conditions sont pas idéales. Mais si on déplaçait les choses et que on avait cette même conversation au café et sur plusieurs heures, je pense qu'à un moment donné, c'est ce qui arrive justement dans l'art de la conversation auquel Deleuze tenait beaucoup. Il en parle bien dans Dialogue, la conversation avec Claire Parnet. Dans la conversation, et notamment la conversation amicale, il y a des moments de dérive où on ne sait plus très bien de quoi on parle, quel est le sujet, où les références commencent à s'enchaîner sur un mode d'association quasi libre. Et pour peu que l'épuisement et différents facteurs interviennent, on peut arriver à un état de flottement qui assimile la conversation à une sorte de devenir asymétrique. Mmh. Il arrive même qu'on sache plus très bien si on parle de la même chose. Et ça n'est pas grave.
C'est bien de le dire. Parce qu'effectivement, dans le texte qu'on a entendu, il parle de l'écrivain, il parle du sorcier. Plus tard, dans le dixième plateau sur les devenirs, il va parler aussi du peintre, il va parler aussi du musicien. Vous avez parlé de la musique, Élie Düring. On a l'impression que seuls les artistes sont à même, en fait, de ressaisir les devenirs qui les traversent. Et d'ailleurs, il parle bien, là, par exemple, du pré-romantique allemand Moritz, qui se sent responsable devant, les veaux qui meurent. Et là, en fait, vous nous dites, les devenirs, c'est quoi? Une question, de conditions, d'attention, de laisser aller, d'une certaine manière?
La référence à Moritz, juste pour la clarifier, c'est ils ont en tête, je suppose, parce qu'ils donnent pas toujours leur référence explicitement. Il y a vraiment une prolifération de parfois de souvenirs et parfois même de faux souvenirs, je suppose, tirés de leur lecture.
Mais comme n'importe quel souvenir est un peu faux, d'ailleurs.
Et ça, c'est très beau aussi dans ce livre. Et donc, Moritz, Carl Philipp Moritz, donc c'est un écrivain romantique allemand qui est l'auteur de Anton Reiser, où il y a, c'est mon souvenir, une scène où le protagoniste de ce roman s'approche d'un veau ou d'une vache, je sais plus très bien, justement, et pose sa tête contre son front. Et participe comme ça, de façon très intense, à quelque chose de l'autre vie, de la vie animale et mutique, qui est là, à portée de main. Bon, alors la question, en effet, c'est de savoir ce que l'art. On parlait à l'instant donc de la littérature, et c'est vrai que le devenir animal est très lié à des processus d'écriture. Hein. L'écriture engage à un certain niveau quelque chose de l'ordre d'un devenir animal, mais aussi d'un devenir femme, d'un devenir enfant. Il est question de Virginia Woolf pour le devenir femme. Devenir enfant, c'est encore autre chose, mais c'est très lié à l'écriture et plus généralement à l'art. En effet, pour répondre à votre question, on pourrait dire que ce que fait en propre l'artiste, d'abord, il est investi d'une puissance de vision, c'est que c'est un voyant. Ça aussi, c'est une thèse qu'on trouve déjà chez Bergson. Alors là, l'artiste, c'est celui qui voit et qui fait voir quelque chose qui était de l'ordre d'un imperceptible. Mais il fait d'une part ça, en se rendant sensible à ces seuils de la perception, cette dimension de l'imperceptible dans le visible, et il arrive à mettre des mots dessus, à le mettre en forme, et puis il le fixe aussi. Et c'est là que, l'art prolonge et accomplit ce qui est déjà à l'œuvre dans la vie animale. Dans ce que Bertrand Prévost, dans son très beau livre récent, appelle l'élégance animale, mais l'expression est chez Deleuze et Guattari. Ce que font les animaux, c'est de configurer esthétiquement leur monde en construisant une territorialité spécifique, en composant leurs mouvements et leurs affects avec un environnement. C'est pas simplement habiter une niche, c'est vraiment composer son habitat. C'est ce que font les animaux. Et il y a une dimension sémiotique, une émission de signes, une dimension esthétique, des configurations donc territoriale et affective qu'on retrouve dans l'art, que l'artiste, au fond, intensifie, prolonge et parvient à fixer par les moyens de son art, à travers le médium, soit de la peinture, soit de l'écriture, on fixe des qualités sensibles, on fixe des compositions de territoire et d'affect de façon durable dans des figures littéraires, dans des formes d'écriture ou de représentation picturale qui donnent une sorte d'éternité à ces moments d'expérience. Ça, c'est le propre de l'art. Et Deleuze et Guattari reviennent là-dessus dans « Qu'est-ce que la philosophie ?», un ouvrage tardif. Il y a une théorie de la capacité de l'art à en quelque sorte, atteindre une forme d'éternité par fixation et de blocs de sensations qui sont arrachés au caractère transitoire et éphémère de l'expérience vécue, qui acquiert donc cette consistance spéciale. Mais ça suppose un travail de composition, et on revient à l'enjeu fondamental. Bon, l'enjeu premier, c'est expérimenter, cesser d'interpréter, cesser de catégoriser, sortez de vos régimes névrotiques d'identification, expérimentez les flux, ne vous placez pas d'emblée dans des rapports d'opposition binaire, homme-femme, enfant-adulte, humain-animal, et voyez ce qui est possible, mais dans un second temps, composez quelque chose. Trouvez le plan de consistance où vous allez pouvoir organiser tous ces éléments de façon cohérente. Et par cohérence, c'est pas une cohérence logique qui suivrait un modèle, mais c'est quelque chose comme une condition, ben on pourrait presque dire ici de durabilité, c'est-à-dire il faut que ça consiste et que ce soit pas simplement des moments d'expérience, mais quelque chose qu'on puisse organiser dans la forme étendue d'une vie singulière qui est sa cohérence propre. En quelque sorte. Donc ça, c'est l'enjeu, et c'est l'enjeu de l'art et la tâche des artistes de nous faire voir comment c'est possible à travers des modèles, des prototypes, des maquettes, livres, musique, cinéma, qui sont comme des viatiques pour chacun d'entre nous pour augmenter nos vies, en quelque sorte, leur donner davantage de dimensions, mais aussi de consistance. Ça, c'est très important, c'est un thème qu'on oublie souvent au profit d'une sorte d'expérimentation à tout crin, qui est aussi un thème, évidemment, très présent, mais qui est finalisé, en quelque sorte. Deleuze et Guattari n'aiment pas ce terme, hein. Mais il y a une sorte de finalité immanente des devenirs, qui est justement ce devenir imperceptible, où l'enjeu est de composer de pures lignes d'expérience, des lignes de sensation, des lignes d'affect, qui vont pouvoir s'organiser sur ce fameux plan de consistance, cette machine abstraite, comme ils disent aussi.
La majorité, c'est un truc qui suppose, même quand on vote, c'est pas simplement la plus grande quantité qui vote pour telle chose. La majorité, ça suppose un étalon. En Occident, l'étalon que suppose toute majorité, c'est homme, adulte, mâle, citoyen des villes. C'est ça l'étalon. Donc, aura la majorité par nature. Celui qui, à tel moment, ou l'ensemble qui, à tel moment, réalisera cet étalon. Alors, les femmes vont compter et vont intervenir dans la majorité ou bien dans des minorités secondaires d'après leur groupement par rapport à cet étalon. Mais à côté de ça, il y a quoi? Il y a tous les devenirs qui sont des devenirs minoritaires. Je veux dire, les femmes, c'est pas un acquis, elles ne sont pas femmes par nature. Les femmes, elles ont à devenir femmes. Du coup, si les femmes ont à devenir femmes, les hommes aussi, ils ont à devenir femmes. Les enfants, ils ont à devenir enfants. Ils ne sont pas enfants par nature. L'homme mâle adulte, il n'a pas à devenir. Il peut devenir femme, à ce moment-là, il s'engage dans les processus minoritaires. La gauche, c'est l'ensemble des processus de devenir minoritaire.
Extrait de l'abécédaire de Deleuze, où on entend Deleuze à la lettre G comme gauche parler des devenirs, c'est-à-dire que tout devenir est un devenir minoritaire, on ne peut pas devenir majoritaire. L'homme blanc, mâle de plus de 50 ans, on pourrait dire aujourd'hui, pour reprendre une catégorie actuelle, bah voilà, c'est vous, Elie Düring, vous ne pouvez pas devenir ce que vous êtes déjà d'une certaine manière.
C'est rassurant.
Tous les autres devenirs sont minoritaires. Alors là, on a le devenir femme, le devenir enfant, on parlera tout à l'heure du devenir moléculaire assez rapidement parce que le temps presse. C'est quoi la spécificité de ces autres devenirs après le devenir animal? Pourquoi un devenir femme? Pourquoi c'est important?
Le devenir femme, comme il le dit, il a une valeur paradigmatique. On pourrait dire qu'il fournit la trame logique des devenirs en général, parce que justement, il met en scène le caractère minoritaire, le caractère mineur, en fait, de tout devenir. Tout devenir communique avec le devenir femme, qui en donne en quelque sorte le type logique, dans la mesure où il s'arrache à un découpage ou un codage majoritaire qui prend typiquement la forme d'opposition binaire, mais hiérarchisée. Il y a toujours un pôle qui est valorisé. Donc dans homme-femme, traditionnellement et culturellement, c'est le pôle homme qui, pour toutes sortes de raisons sur lesquelles il n'est pas nécessaire de revenir, a été en quelque sorte privilégié et qui donnait son sens au pôle opposé. Mais ce faisant, il faut, et c'est ça l'intérêt de la réflexion sur le devenir femme, il faut comprendre que l'enjeu n'est pas du tout de devenir une femme ou d'accomplir sa féminité en revendiquant une sorte de privilège de statut ou d'essence ou d'identité. Il se moque un peu de l'expression qui pourrait revenir dans la bouche d'une féministe de l'époque, en tant que femme, etc. Et c'est pas plus intelligent que en tant qu'homme. Et donc c'est pas au nom d'un statut de minorité que le devenir minoritaire peut s'effectuer. C'est au contraire en s'arrachant à cette opposition-là et en passant à travers, transversalement, en quelque sorte, en court-circuitant des oppositions binaires ou molaires, comme ils disent aussi, qu'on peut entrer véritablement dans un devenir minoritaire. Donc devenir femme, ça n'est pas s'identifier à je ne sais quelle essence de la féminité. C'est pas pour l'homme qui aurait aussi un devenir femme retrouver en lui sa part de féminité, comme on dit un peu bêtement, mais c'est au contraire participer du devenir femme en tant qu'il fournit le type de tous les devenirs mineurs. Et par exemple, et pour passer dans un registre tout à fait différent, la littérature mineure, qui a été thématisée et illustrée dans le livre consacré à Kafka, mais qui revient aussi beaucoup dans ses pages sur le devenir en général, illustre le fait qu'on peut introduire dans sa langue, dans une langue majoritaire, pour Kafka, c'est l'allemand, mais parler ou écrit depuis le point de vue d'un Tchèque qui parle aussi yiddish, on peut introduire dans la langue majoritaire un devenir minoritaire qui pousse, en fait, qui consiste à tendre la langue vers des extrémités, vers des seuils intensifs, qui la font basculer dans un autre régime qui lui donne un accent étranger. C'est Proust qui disait « Tous les beaux livres sont écrits dans une sorte de langue étrangère ». Bon, ça, c'est un bon exemple du devenir minoritaire qui peut avoir lieu au sein de la langue majoritaire. Donc, c'est pas l'idée qu'on va se mettre à parler une autre langue, la langue des minorités. Kafka continue à écrire en allemand.
De la manière que Deleuze dit que devenir enfant, c'est pas retrouver l'enfant en soi. Il dit que c'est complètement absurde, que c'est cucu. Bon, ça, il le dit pas, c'est pas son terme, mais c'est...
Oui, il faut pas faire l'enfant, pas plus qu'il faut faire la bête.
Il dit, par exemple, qu'un enfant a lui-même à devenir enfant.
Absolument. Et donc, si tout communique. Si on regarde comment l'enfant fait l'animal, ou entend des devenirs animaux, on comprend ce que ne doit pas vouloir dire faire l'enfant. Faire l'enfant, ou entrer dans un rapport d'enfance à l'enfant, comprendre, comme disait Rousseau dans La Nouvelle Héloïse, que l'enfance a ses manières propres de sentir et de penser, c'est comprendre comment l'enfant lui-même entre, par exemple, dans des devenirs animaux, dans des devenirs tigres. Il faut avoir vu un enfant, et là je ne parle pas de bande dessinée, mais d'enfant réel.
De réalité.
Faire le tigre ou entrer dans un devenir tigre, se mettre à manger comme un tigre, à renifler comme un tigre, à parler comme un tigre, pour comprendre le type de rapport à l'enfant qu'un adulte humain peut entretenir et qui le ferait entrer dans un devenir enfant. Je rappelle quand même que tous ces devenirs, animal, enfant, femme, s'écrivent avec un trait d'union.
Voilà.
Il y a un tiret, un trait d'union, c'est devenir tiret, trait d'union animal, devenir trait d'union femme. Et ce trait d'union, il dit que c'est une façon de figurer typographiquement le fait qu'on a affaire à des blocs de devenir où ce qu'on devient devient lui-même autre chose. Devenir femme, c'est aussi arracher la femme elle-même à son statut de minorité opprimée ou à cette identité supposée qui est toujours le danger d'un discours féministe.
Juste, j'aimerais revenir, parce que c'est très intéressant, c'est-à-dire que cette distinction entre devenir minoritaire, minoritaire et minorité. Mais ce faisant, est-ce que Deleuze et Guattari ne s'exposent pas non plus à une forme de dilution d'enjeux politiques des minorités? D'ailleurs, c'est une critique, Michel Cressol, journaliste chez Libération, qui a été un proche de Deleuze puis qui s'en est écarté, était homosexuel et lui reprochait en fait d'avoir tenu des propos comme son devenir homosexuel alors qu'il n'était pas homosexuel, qu'il ne subissait pas justement ce que subit cette minorité-là.
Oui, ça c'est... cette critique, on peut l'entendre, je pense que Deleuze l'a entendue, c'est que c'est toujours très difficile de parler au nom d'eux, de parler pour. Alors l'écrivain écrit en quelque sorte, pour les animaux, pour les enfants, pourquoi pas pour les opprimés en général. Le philosophe est tenté de faire la même chose, mais ce parler pour ne doit pas être, justement, doit être très vigilant et ne pas substituer un nouveau rapport d'identification à ce qui, en principe, devait nous en arracher. Et je pense que Deleuze et Guattari sont tout à fait conscients du problème, et justement, leur réponse consiste à dire « oui, vous avez raison, donc je vous donne acte, mais précisément, l'enjeu du devenir minoritaire, quel qu'il soit, homosexuel, femme, etc., c'est de ne pas retomber dans les ornières de ce qui devait être critiqué au départ, à savoir des oppositions binaires où, soudain, bah, la minorité serait en position subjective, en position d'énonciation majoritaire, au nom de la minorité qu'elle représente, au nom de l'histoire ou de la mémoire qu'elle porte. Ça, c'est le danger de toute politique des minorités. Et donc, revendiquer le mineur ou le minoritaire au sens adverbial ou adjectival, c'est une façon de ne pas le resubstantialiser, ne pas le reterritorialiser, ce qui est en effet le danger de tous ces discours d'émancipation politique par la minorité.
On arrive au terme de notre échange, Élie Düring, mais j'aimerais quand même qu'on diffuse, qu'on écoute ce texte qui est vraiment le point d'accomplissement du devenir, le devenir imperceptible.
Il ne faut pas attacher aux devenirs animaux une importance exclusive. Ce serait plutôt des segments occupant une région médiane. En deçà, l'on rencontre des devenirs femmes, des devenirs enfants. Au-delà encore, on trouve des devenirs élémentaires, cellulaires, moléculaires, et même des devenirs imperceptibles. Vers quel néant le balai des sorcières les entraîne-t-il ? Et où Moby Dick entraîne-t-elle Akab aussi silencieusement ? Lovecraft fait que son héros traverse d'étranges animaux, mais enfin pénètre dans les ultimes régions d'un continuum habité d'ondes innommables et de particules introuvables. La science-fiction a toute une évolution qui l'a fait passer des devenirs animaux, végétaux ou minéraux, à des devenirs de bactéries, de virus, de molécules et d'imperceptibles. Le contenu proprement musical de la musique est parcouru de devenirs femmes, devenirs enfants, devenirs animales, mais sous toutes sortes d'influences qui concernent aussi les instruments, tend de plus en plus à devenir moléculaire, dans une sorte de clapotement cosmique où l'inaudible se fait entendre. L'imperceptible apparaît comme tel, non plus l'oiseau chanteur, mais la molécule sonore. Si l'expérimentation de drogue a marqué tout le monde, même les non-drogués, c'est en changeant les coordonnées perceptives de l'espace-temps et en nous faisant entrer dans un univers de micro-perception où les devenirs moléculaires prennent le relais des devenirs animaux.
Élie Düring, une conclusion à partir de ce texte.
La conclusion, c'est que ce texte qu'on vient d'entendre résume parfaitement une des dernières caractéristiques du devenir, ce qui constitue en fait la finalité immanente de tout devenir, disent Deleuze et Guattari, à savoir l'imperceptible. Le devenir est furtif. Et il doit atteindre à ses limites, à ses seuils où on ne sait plus très bien ce qui devient et ce que ça devient, et où on atteint à cette abstraction qui est aussi l'enjeu de toute cette réflexion, l'abstraction que l'art accomplit, c'est-à-dire dégager de pures lignes intensives, de pures lignes sensibles, dégager des sujets et les composer dans des formes nouvelles, des formes de vie augmentée peut-être.
Crawling king snake in the room I'm in.
et Lydie Ring. De vous, on peut lire votre dernière parution, ça n'est pas question de Deleuze, mais Deleuze en parle, Glenn Gould aux éditions de la Philharmonie. Et pour lire 1000 plateaux de Deleuze et Guattari, c'est toujours disponible aux éditions de Minuit. 10h, presque 55 minutes, c'est l'heure de retrouver le pourquoi du comment de Frédéric Worms.
Comment peut-on parler de souveraineté du bien ? Dans un texte étonnant paru en 1970, la philosophe et romancière anglaise Iris Murdoch écrivait en effet sous le signe de la souveraineté du bien. Ce texte intitulé « La souveraineté du bien » a un titre pourtant très profondément paradoxal. En effet, la souveraineté est une idée d'abord politique. La souveraineté, c'est l'autorité suprême, c'est l'autorité exclusive que reconnaissent les humains entre eux à telle ou telle personne ou à telle ou telle instance collective pour décider des questions de vie ou de mort. Par exemple, c'est la souveraineté d'un État sur un territoire reconnu par ses citoyens et aussi reconnu par la communauté internationale. La souveraineté est donc le pouvoir suprême, le pouvoir absolu. Et dans la théorie moderne de la souveraineté, on passe, comme l'ont montré Michel Foucault, par exemple, et beaucoup d'autres auteurs, y compris d'abord les théoriciens du contrat social, on passe d'une souveraineté fondée sur une transcendance religieuse, une transcendance morale, on passe d'une souveraineté métaphysique qui investit par exemple le roi d'une autorité divine, on passe de cette reconnaissance verticale de la souveraineté à une reconnaissance horizontale sur le modèle du contrat. Ce sont des conventions qui attribuent, avec une délégation des libertés individuelles à un tout collectif, qui attribuent à l'État ce pouvoir exclusif de vie ou de mort sur un territoire qu'on appelle la souveraineté. Alors, pourquoi parlerait-on encore de souveraineté du bien, qui semble réintroduire une sorte de transcendance métaphysique, comme si les souverains, oui, même les souverains d'aujourd'hui, même les souverains qui, désignés par la loi, cherchent à retrouver le pouvoir du monarque, à s'affranchir de toute transcendance, parce qu'ils seraient eux-mêmes investis d'une supériorité individuelle, dans certaines démocraties, le retour de la tyrannie, dans certains États, le chef suprême, pourquoi réintroduire aujourd'hui, face à cette dérive de la souveraineté politique, peut-être, le retour d'une transcendance morale, cette souveraineté du bien. Iris Murdoch, comme Simone Weil, dont elle s'inspire, réfère cette souveraineté du bien à la philosophie morale de Platon. En effet, entre les humains, il peut ne pas y avoir de souveraineté individuelle d'une personne sur une autre, mais la reconnaissance de valeurs communes qui s'imposent à tous. Et il est vrai que dans la République de Platon, le bien qui est l'objet de notre désir commun, qui est supérieur à nos biens individuels, le bien en soi s'impose de manière absolue à la décision individuelle. Seulement, on peut se tromper de bien. Comment comparer les diverses conceptions du bien ? C'est la relativité du bien contre laquelle veut lutter Platon, et on sait que c'est la philosophie, pour lui, qui connaît la nature humaine, les véritables biens qui répondent aux besoins fondamentaux de notre âme, comme le dira Simone Weil au XXe siècle, la grande platonicienne du XXe siècle. Eh bien, c'est cette souveraineté d'un bien transcendant qui doit s'imposer à nos conceptions individuelles du bien et du mal. Comment reconnaître aujourd'hui justement une transcendance de valeurs morales qui permettent de dépasser le conflit des souverainetés relatives en guerre les unes contre les autres et susceptibles d'appropriation ? Peut-être l'idée de souveraineté du bien nous réoriente-t-elle vers la fonction de la souveraineté, qui est justement de nous protéger contre les conflits mortels entre les humains. Il faut reconnaître une souveraineté d'abord pour éviter la guerre de tous contre tous, c'est l'objet du contrat social, puis la violation par la souveraineté politique elle-même de la liberté de notre propre corps et la reconduction de pouvoir mortel au sein de la souveraineté. Retrouvons donc la question de la souveraineté du bien, elle est d'abord la question de l'utilisation de la souveraineté contre le mal, c'est-à-dire contre la mort.
Merci Frédéric et merci à toute l'équipe, Armance Bourquin, Anna Fulpin, Carla Michel, Shaima Giboire, Antoine Ravon et Nassim El Kabli, à la réalisation Nicolas Berger, à la prise de son Olivier Arnet. Pour retrouver toutes les émissions, rendez-vous sur le site Radio France et sur l'application Radio France.